Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1.
Comme chaque mois, nous nous retrouvons pour aborder un sujet de la nature dans l'Ain et les activités de FNE 1, l'association qui réconcilie l'humain et son environnement. À l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets qui aura lieu du 22 au 30 novembre et dont le thème de cette année est « Les déchets électriques et électroniques », je reçois aujourd'hui Bertrand Keller, consultant en accessibilité numérique, pour nous parler des déchets liés au numérique et nous redonner des conseils afin de limiter notre impact négatif sur l'environnement. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Alors, quand on parle pollution numérique, à quoi est-ce que ça te fait penser en premier ? Est-ce que ce sont surtout les déchets d'appareils ou autre chose ?
Alors bien sûr, c'est autre chose, mais c'est vrai que quand on me demande à quoi je pense en premier, effectivement, c'est la partie déchets. Dans le monde du numérique, puisque je travaille dans le monde du numérique, je fréquente différentes structures et différents métiers du numérique, effectivement, c'est la partie qui est oubliée. On est dans la partie active de création de services numériques, d'activités, mais la partie déchets numériques est assez peu traitée, elle est invisibilisée dans le monde du numérique. En revanche, il y a des personnes qui travaillent dessus. Il faut voir que les déchets numériques, dans le numérique, on parle d'analyse de cycle de vie, donc de cycle de vie des appareils. Donc on va le prendre de la création de l'appareil avec... on va se procurer des matières premières qui vont permettre de créer les appareils numériques. Et à la fin du cycle de vie, on a le déchet électronique qui, en fait, n'est jamais recyclé, vraiment. Donc, on va avoir tout un circuit de la matière qui va être transformé en un appareil numérique qui va être chez les personnes. Et ces appareils, avec l'évolution numérique, deviennent de plus en plus complexes. Et la partie de fin de vie d'un appareil, une fois qu'on veut le transformer en déchet, qui peut être reconditionné, etc., bien en fait, plus l'appareil est complexe, plus il va être difficile à recycler. Et quand on prend les chiffres du recyclage, ils sont... très faible, on n'arrive pas à recycler. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie dans d'autres pays. Vous imaginez bien que ce n'est pas les pays les plus riches. Donc, on a des circuits des pays les plus riches aux pays les plus pauvres. Donc, il y a une partie de ces appareils, ces déchets qui sont traités comme dons, comme seconde vie pour ces pays un peu moins riches. Et du coup, ils ne sont pas classés comme déchets. Donc, on a un tout système de classement. Mais au final, une grande partie qui est invisibilisée, on a dans certains reportages avec des grandes mines au Ghana, se retrouve dans des déchetteries et on va récupérer tant bien que mal une partie des matériaux en brûlant tout simplement ces appareils pour récupérer de l'or ou du cuivre ou que sais-je. Mais toutes ces déchetteries énormes vont créer des pollutions énormes et des pollutions qui vont être dans d'autres populations. En tout cas, c'est le système aujourd'hui jusqu'à temps qu'elles nous disent on n'en veut plus.
D'ailleurs, en parlant de pollution, on dit que le numérique représente aujourd'hui à environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourquoi ce chiffre surprend et surtout augmente de plus en plus ?
Alors, il surprend, en fait, pour être exact, en fait, le chiffre de 4%, c'est un chiffre un petit peu représentatif qui a été amené par des études qui ont été faites il y a quelques années. Et qui voulait montrer qu'en fait, le numérique n'était pas immatériel. Donc ça, c'était encore la vision qu'on avait du numérique il y a 4 ou 5 ans, où en fait, le numérique sert à décarboner. Donc il y avait aussi les phrases du président d'Orange qui étaient de dire quand on investit, on émet une tonne avec le numérique, on économise 12 tonnes dans l'économie normale. Donc en fait, ça a été débunké. Ils avaient pris... des annexes dans des papiers qui étaient créés par un grand consortium mondial des opérateurs de télécom pour montrer qu'il fallait vraiment intensifier l'utilisation du numérique. Donc il y a eu des études qui ont été faites par des associations et des chercheurs. On est très très actifs en France. Et donc on a voulu montrer que c'était pas rien. Donc le numérique était matériel. 4%, on va dire, c'est pas si énorme. Puis voilà, ça dépend aussi des pays, des mix énergétiques, plein de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est pas que c'est que 4%. Ce qui est vraiment intéressant dans ce chiffre, c'est qu'il est en augmentation et qu'il s'intensifie et que le chiffre de 4% est sorti avant l'IA. Et qu'on espérait baisser ou réduire ou limiter l'impact du numérique. Et en fait, avec l'IA, qui est, on va dire, au niveau des mesures, on se sert encore des chiffres de 2023, alors qu'en 2025, on commence à en avoir de 2024. les chiffres explosent.
Oui, ça explose. Déjà, ça, il n'y a pas très longtemps, c'était 2%. Là, c'est 4%. C'est à peu près la flotte des camions, enfin, transport routier.
Voilà, parfois. Alors, il faut bien voir qu'on parle en gaz à effet de serre ou équivalent effet de serre. Hein, c'est pour avoir un chiffre global pour comparer des secteurs, parce qu'on compare un peu des chiffres et des bananes. La pollution, ce n'est pas juste des gaz à effet de serre, c'est aussi les impacts sur l'eau, c'est l'impact sur la nature. Il y a des produits chimiques, il y a 16 catégories d'impact hein, dans les études ACV, donc on prend toujours ce chiffre-là. Donc on dit c'est trois fois la France, c'est trois fois tel pays. Mais il faut savoir que quand on compte, c'est toujours imparfait, parce que si on voulait compter vraiment le temps qu'on sorte l'étude sur une année, elle sortirait 4 ans plus tard. Mais le numérique, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il est partout. On ne peut pas cloisonner le numérique au numérique. Le numérique, il est dans des systèmes embarqués d'avions, de voitures, etc. Et souvent, on oublie cette partie-là et elle n'est pas décomptabilisée, quoi.
Et alors, au quotidien, on change souvent de smartphone et d'ordinateur, on dit à peu près tous les 2 ans. Pourquoi est-ce si polluant ? Et nos anciens appareils, on nous demande de les rapporter pour les recycler. Qu'est-ce qu'ils deviennent, nos anciens appareils ?
Alors, comme je dis, il y a plein de sortes de pollutions, donc on ne va pas toutes les faire. Pourquoi si polluant ? Tout simplement, les appareils se complexifient, je l'ai déjà dit, donc par exemple dans les smartphones notamment. L'objectif des smartphones, c'est qu'en fait, ils soient pas très gros, assez légers, et qu'en fait, ils consomment assez peu d'énergie, donc la batterie dure longtemps. Pour que la batterie dure longtemps, on va optimiser un peu ces ensembles de matériaux. D'appareils, en fait, on va utiliser des matériaux qui vont être le plus performants possible, qui vont être le plus pur parfois possible. Et pour que tout cela marche, par exemple, on va rajouter un petit peu partout, alors je crois que c'est pas de l'arsenic, je crois, un petit peu partout. Et cet arsenic, on ne peut pas l'enlever au moment du recyclage de ces appareils. Donc pourquoi c'est polluant ? Tout simplement parce qu'on ne sait pas les recycler et que c'est des choses toxiques en fait pour l'environnement. Donc à un moment donné, il faut s'en débarrasser et donc on les stocke et puis après il y a de l'eau qui coule dessus et puis plein de choses comme ça. Donc en fait, c'est polluant de l'appareil en lui-même et après c'est polluant aussi dans l'usage et dans toute l'infrastructure. Le fait de les utiliser, on consomme de l'énergie. Il y a plein d'autres types de pollution, quoi.
Et est-ce que le fait de stocker des mails, des photos, des vidéos dans le cloud, comme on l'appelle, a vraiment un impact sur l'environnement ?
Forcément, c'est un impact, puisqu'on les stocke. Après, la question, c'est de savoir si on en stocke trop, peut-être on a parfois des campagnes pour dire qu'il faut les réduire, supprimer ses mails. Alors, supprimer ses mails, ça n'a pas d'impact par rapport aux autres types de consommation. Quand on supprime des mails, on est plutôt dans une pratique, une discipline personnelle de nettoyer un petit peu ces appareils, puisqu'en fait, quand on parle de décommissionnement dans le monde du numérique, c'est supprimer des serveurs, supprimer des contenus qui ne servent plus, optimiser, etc. Donc c'est des pratiques d'archivage, de nettoyage qu'on devrait avoir en permanence. Donc on va l'évoquer et c'est important. Mais le stockage en lui-même, de contenu, ce qu'on appelle les médias, etc., n'a pas un impact fou. Ils sont stockés sur des serveurs, ils sont dédoublés pour ne pas les perdre, mais ils ne consomment pas énormément. Et pour vraiment faire la différence, c'est quand vous faites un appel à une IA, où là, il y a une puce qui a extrêmement pollué pour être produite, et qu'on va la questionner pour faire une réponse, comme vous les connaissez, en tout cas avec les IA génératives. Là, on consomme énormément, quoi. Là, ça n'a rien à voir avec juste stocker une vidéo et y avoir accès. On est sur du raisonnement et donc les processeurs ont des impacts beaucoup plus importants, quoi.
Ouais, c'est compliqué. Et donc, en tant que consommateur, quels sont les gestes les plus efficaces qu'on peut faire pour réduire notre empreinte numérique ? Si les mails, ça ne suffit pas, enfin, c'est une goutte d'eau dans l'eau, dans la rivière.
Non, ce n'est pas une goutte d'eau dans la rivière. Hein. Mais honnêtement, je ne vais pas la jouer un petit peu à côté, mais c'est vrai qu'on est dans le monde de l'environnement à vouloir que l'ensemble des personnes modifient leurs gestes. Il y a des gens qui modifient leurs habitudes au quotidien, mais qui sont limités en fait par la société telle qu'elle est. C'est pas forcément évident d'être zéro déchet quand partout dans les supermarchés tout est emballé en plastique. Quand on va au restaurant, peut-être qu'on n'aura pas de déchets directs, mais on ne sait pas si le restaurant lui a des déchets, donc on va quand même au restaurant. Donc il y a des gestes, ce qu'il faudrait, c'est utiliser le moins le numérique. En fait, c'est assez problématique parce que il faudrait construire une sorte de curseur de qu'est-ce que serait le numérique durable dans le temps et qui pourrait perdurer. Aujourd'hui, ce curseur-là, on n'a pas l'occasion d'en discuter vraiment parce qu'on est dépendant d'un système mondial où un ensemble de choses sont créées par des très grandes entreprises et qui nous l'imposent. On n'a pas forcément en discuter parce qu'on n'a pas forcément la connaissance. Donc il y a des gestes qu'on peut faire à son niveau, mais comme on est dépendant des autres, en fait, il faudrait avoir beaucoup plus de discussions citoyennes en fait, sur l'utilisation du numérique et pas de se dire que ce ne sont que des outils, mais que ce sont aussi des outils de travail, ce sont des modes de vie qui sont le support de nos vies et élever les débats et avoir des discussions pour remettre en cause certaines pratiques ou les réduire, comme on pourrait le faire dans d'autres activités, quoi.
Et donc, recycler son vieux téléphone, changer... qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Changer son téléphone, changer ses habitudes, garder son appareil plus longtemps ? Qu'est-ce qui est une bonne solution pour la planète ?
La bonne solution, la planète, c'est encore un curseur qui serait de supprimer l'ensemble des téléphones ou en avoir moins. En fait, il y a beaucoup de questions dans cette question, puisque là, on est encore sur le téléphone personnel. Qu'est-ce que je dois faire avec mon téléphone personnel ? La réponse factuelle, si on se concentre sur l'appareil en lui-même, c'est que la production de tout nouvel appareil, c'est une pollution énorme. Donc, une solution pour en produire moins, c'est notamment d'allonger la durée de vie des appareils. C'est des choses qui, aujourd'hui, figurent dans certaines lois en France, qui sont imposées à des grands organismes et à des grandes collectivités. À travers des lois de recyclage, il faut convaincre les personnes en interne, des entreprises changent leurs activités pour augmenter la durée de vie des appareils. Avant, on ne le faisait pas du tout, donc on a des réflexions sur les achats, sur le stockage, sur le reconditionnement, la réutilisation. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. En revanche, aujourd'hui, on a d'autres problématiques qu'on ne va pas pouvoir aborder dans le fond ici, mais qui est que pour produire les nouveaux téléphones et les nouveaux appareils, il faut des matières premières. Or, ces matières premières, elles sont dans des volumes limités dans le futur. Donc, c'est jusqu'à quand on en aura encore. Donc, il faudrait poser encore une fois la question un peu plus haut de savoir quel numérique on veut, en fait, finalement, collectivement, quoi.
Donc, collectivement, donc, est-ce que tu penses que ça va être les fabricants, les pouvoirs publics qui vont pouvoir agir pour limiter l'impact environnemental ou tu penses que c'est uniquement les personnes à titre personnel ?
Ça ne peut pas être les personnes à titre personnel. On rentre dans une logique avec le réchauffement climatique, les problèmes qui sont en fait finalement posés en termes de problèmes d'urgence dans de la complexité. Et la complexité, elle ne se résout pas avec des idées simples, des solutions simples. Il y a déjà plein de choses qui se font. Donc la complexité, c'est des discussions entre l'économie, le secteur privé, entre les collectivités, les citoyens, les associations actives. Et c'est comme ça qu'on construit quelque chose. Et la seule pertinence qu'il y a, c'est le territoire.
Et donc, si tu devais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui qui veut agir dès maintenant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ?
Agir, à quel niveau ? À niveau personnel, à niveau collectif ?
Pour essayer de réduire cet impact du numérique sur l'environnement, notamment.
Alors aujourd'hui, se posent les questions quand on va dans le fond du fond et qu'on parle avec des questions qui parlent sur le sujet, avec des grands mots dans lesquels on essaie de trouver un sens, qui sont la dénumérisation. La dénumérisation, ça ne veut pas dire supprimer tout le numérique. Et puis des fois, les gens qui ont ce mot-là à la bouche, on les accuse de vouloir tout supprimer. Dans la dénumérisation, c'est que pour les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle l'éco-conception, hein, quelque chose que reconnu, on a un référentiel en France, il y a beaucoup de discussions, ce n'est pas un truc tout nouveau. Et bien, quand on discute sur l'éco...
Conception.
On se dit il ne faudrait pas numériser ou dénumériser des choses qui ne devraient pas l'être. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui ne doit pas l'être ? Donc c'est la question du besoin. La question du besoin, ce n'est pas une personne, un bureau spécialisé qui le sait. C'est les citoyens et les gens qui l'utilisent. Donc la question, c'est de savoir quel numérique, encore une fois, on veut et à quoi il peut nous servir et en quoi il peut nous desservir aussi, puisqu'on sait que parfois, en fait, il nous énerve.
Voilà. Merci Bertrand. Donc, si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le domaine du numérique et de son impact sur l'environnement, nous organisons une fresque du numérique le jeudi 20 novembre de 18h à 21h dans nos locaux au 44 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse. Mais attention, les places étant limitées, il est nécessaire de vous inscrire par mail. Alors, pour le faire, le mieux, c'est de vous rendre sur notre site fne-1-ain.org. Puis, rendez-vous dans l'agenda et à la date du 20 novembre, vous cliquez sur la fresque du numérique pour avoir l'adresse mail d'inscription. Merci de votre écoute, au revoir et à bientôt.
Merci.
Les chroniques du hérisson avec France Nature Environnement 1.